Bienvenue à la chronique des apatrides anonymes. Simon avec vous. C'est une chronique qui est préenregistrée. On est lundi le 4 novembre à l'émission En profondeur à CKUT. Plusieurs sujets aujourd'hui. Une mise à jour sur le dossier de M. Abou Sfiane Abdelrazik. Le Parti québécois annonce son plan en immigration, plan 2014-2015. Une nouvelle assez terrible qui s'abat sur la communauté d'origine haïtienne en République dominicaine. Je vous parle de ça un peu plus tard. Alors, on commence avec une niaiserie conservatrice. Évidemment, ils nous ont habitués à ça. Ils nous fournissent toujours de l'excellent stock pour qu'on s'amuse un peu. Je vous lis le titre d'un article qui est paru récemment. Les candidats à l'immigration ne doivent plus envoyer de tweets au ministre Alexander. On fait référence évidemment ici au ministre canadien de l'immigration, Chris Alexander. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça se passe en Turquie, au bureau canadien de l'immigration à Ankara. C'est peut-être un des plus débordés du monde, surtout depuis la fermeture des ambassades canadiennes en Syrie et en Iran. Donc, des centaines, des centaines, des centaines de dossiers, mais tellement débordés qu'en plus des délais habituels qu'on trouve un peu partout ailleurs dans les autres bureaux d'immigration Canada dans le monde, on ajoute une bonne année, là, plusieurs mois de délai, ce qui fait en sorte que c'est extrêmement, extrêmement long. Donc, plusieurs personnes qui ont un dossier en attente à ce bureau-là ont commencé à perdre un peu patience et envoyer des demandes au courriel de M. Alexander, à son courriel public, ainsi qu'à son compte Twitter, qui est public aussi. Donc, c'est une mini-campagne. Je dirais quelques dizaines de personnes qui, sur quelques semaines, ont envoyé 4, 5, 6 messages. Par exemple, la plupart demandant simplement des réponses à leurs questions sur les délais de traitement, là, où en est leur dossier, à quel délai on peut s'attendre. Certains suggéraient même, ben, écoutez, si vous êtes trop débordé, vous pouvez peut-être transférer des dossiers au bureau de Paris ou dans d'autres bureaux d'immigration Canada dans la région. La réponse du ministère, plutôt que de s'excuser ou de dire oui, nous travaillons à telle solution, nous envisageons ça, on va vous tenir au courant. Non. C'était. Ben, en fait, je vais vous lire des extraits. Je vous laisse juger du ton qui a été employé. Il nous a été signalé que les gens suivants continuent d'envoyer des messages directement au ministre. Nous vous demandons et vous recommandons de vous abstenir immédiatement de tout contact avec lui à ce sujet à l'avenir. Ça, c'est des courriels qui étaient destinés directement aux personnes qui avaient pris part à cette campagne-là. Un autre courriel ultérieur, ça c'est un courriel qui date du 24 septembre, un courriel qui n'est pas signé par le ministre ni par aucun fonctionnaire, mais que simplement qu'on sait qu'il émane du ministère de l'Immigration. Donc on demande d'arrêter immédiatement cet assaut contre-productif, d'attendre votre tour en ligne comme le fait la vaste majorité des demandeurs. Vous avez pris la décision de créer une situation afin d'embarrasser le département en envoyant un barrage de courriels. Là, regardez, je tiens juste à préciser. Quand on utilise des expressions comme barrage de courriel, on pense que ça pourrait faire référence, par exemple, à ce qu'on appelle le déni de service, qui est une technique de piratage qui, au moyen de certains procédés électroniques, permet d'envoyer de manière automatique des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de courriels à la seconde, ce qui fait en sorte de bloquer complètement les services de communication d'une institution. Là, c'est des messages qui ont été envoyés par des particuliers, comme je disais, certains à quelques reprises, et qui demandent des réponses par rapport à leur dossier. La plupart des gens ont estimé que la réponse du gouvernement avait été menaçante, qu'ils avaient même eu peur par rapport à la suite des choses dans le traitement de leur dossier. Donc, on félicite le ministère de l'Immigration pour cette magnifique gestion de crise et sa politesse habituelle envers les personnes migrantes. On va passer à un autre sujet. Monsieur Abou Sfiane Abdelrazik, on se souvient de lui qui a été arrêté et détenu au Soudan. En grande partie grâce au travail du SCRS. Bon, le CRS, dans ce dossier spécifique-là, a reçu de très sérieux blâmes récemment. C'est des blâmes qui viennent du CSARS, Comité de surveillance des activités d'enseignement de sécurité. Donc, les blâmes en question, ils sont sérieux, comme je le disais. Avoir dévoilé de manière inappropriée des renseignements personnels et secrets aux autorités soudanaises. Avoir rapporté des informations inexactes et exagérées sur le compte de M. Abdelrazik. Avoir laissé entendre aux autorités soudanaises que le SCRS appuyait la décision de l'arrêter de le détenir. Et finalement, avoir été en conflit, ben, c'est-à-dire que le SCRS et le ministère des Affaires étrangères ont été entre eux en conflit par rapport à leurs rôles respectifs, leur rôle consulaire et leur rôle de renseignement. Donc, c'est des problèmes d'ingérence, de coordination, de respect des champs de compétences de chaque instance. C'est une bonne nouvelle pour M. Abdelrazik parce qu'on sait qu'il a entamé des poursuites judiciaires contre le gouvernement canadien et des poursuites à titre personnel contre l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Lawrence Cannon. Donc, ce genre de blâme-là qui provient d'une instance gouvernementale va probablement, on le souhaite du moins, être déterminante dans les décisions qui vont être prises suite à ces poursuites-là, du moins pour la poursuite en ce qui concerne le gouvernement canadien. Donc, bonne chance, M. Abdelrazik. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour les droits humains au Canada en général. Bon, le Parti québécois. Cette semaine, la ministre, je vais essayer de vous donner son titre exact. Je crois que c'est la ministre de l'Immigration, des Communautés culturelles et de la Langue française. Bref, Diane de Courcy, une annonce sur le plan d'immigration du gouvernement pour les années 2014-2015. Vous savez, c'est un contexte périlleux. On est quand même dans le cadre de la charte des valeurs dites québécoises. Certains observateurs, observatrices se disaient, ben écoutez, on met le bâton d'un côté, peut-être que pour les personnes migrantes de l'autre côté, on va essayer de se montrer plus ouvert, plus conciliant, plus généreux. C'est pas le cas du tout. Donc, petite mise en contexte, annuellement, le Québec reçoit, dans les dernières années, du moins environ 55 000 personnes. 55 000 personnes migrantes. On entend baisser ces quotas-là à 51 000 en 2014 et entre 49 et 50 000 en 2015. Donc, c'est une diminution, si on fait le calcul rapidement, d'environ 10 %, donc importante diminution des personnes qu'on recevrait au Québec selon ce plan d'immigration du Parti québécois. De mémoire, c'est assez triste comme nouvelle parce que là, je m'avance un peu, mais je crois que dans les dernières décennies, c'est du jamais vu qu'on abaisse les quotas d'immigration comme ça. La règle, qui n'est pas nécessairement une règle écrite, mais ça a toujours été en légère augmentation. D'année en année, on augmentait de quelques centaines le quota de nombre de personnes qu'on souhaitait recevoir au Québec. C'est une augmentation du nombre de personnes qu'on souhaite, qui en général suit à peu près la même tendance que celle de l'augmentation de la population totale du Québec. Donc, c'était peut-être indexé en fonction de ça. Donc, une triste première. Je ne sais pas si c'est un message clair qu'on envoie à un certain électorat plus de souche, blanc, francophone, qui habite probablement pas dans les grands centres urbains où on accueille la plupart des communautés culturelles. La manière dont c'est justifié, ça tient pas la route. Madame de Courcy dit, ben, il faut favoriser un contexte où il va y avoir une meilleure intégration des immigrants. On veut davantage financer la francisation. Soit, moi, je pense pas que c'est une mauvaise chose de financer des programmes qui peuvent aider l'intégration des personnes migrantes. Par contre, il n'y a pas de problème majeur à la francisation. Actuellement, on prend l'exemple, mettons, à Montréal, une personne migrante veut améliorer ou apprendre le français. Ben, écoute, elle va aller, par exemple, dans une école de la CSDM, s'informer, on va constituer son dossier, on va payer les frais. Si un trimestre commence dans 2 semaines, la personne va commencer ses cours dans 2 semaines. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, je rejette complètement cet argument-là. Une inquiétude, c'est Madame de Courcy qui, plus vers la fin de son intervention, disait vouloir envisager une modernisation de la loi québécoise sur l'immigration, une modernisation qui serait basée sur une déclaration d'intérêt. On ne sait pas c'est quoi la déclaration d'intérêt. Est-ce que ce serait un document qui serait signé par la personne qui souhaite être sélectionnée par le Québec? Est-ce que ce serait des nouveaux critères ou une bonification des critères de sélection actuels? Ça, on ne sait pas. La déclaration d'intérêt, selon la ministre, permettrait de choisir des candidats qui répondent mieux aux besoins des employeurs et des régions. Donc, mieux répondre aux besoins des employeurs, c'est exactement ce que fait M. Harper et M. Kenney en réformant complètement le système d'immigration canadien dans les dernières années. C'est-à-dire que l'immigration doit servir les besoins économiques, doit répondre aux besoins des grandes entreprises. C'est ça le critère numéro un qu'on veut. Donc, répondre aux besoins des employeurs des régions au Québec, est-ce qu'on fait référence entre les lignes aux grands projets qui sont à l'extérieur des grands centres comme Anticosti, où on entend exploiter du pétrole, les projets de l'éoduc, soit construction de l'éoduc, renversement de flux de l'éoduc. Est-ce qu'on parle de Old Harry dans le golfe du Saint-Laurent? Est-ce qu'on parle de projets miniers dans le plan Nord? Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'on souhaite, là, obtenir, je dirais, recevoir des immigrants pour pouvoir aller les envoyer travailler sur ces grands projets-là. Ça reste à voir. Donc, le Parti québécois prend exactement la même orientation que le Parti conservateur en matière d'immigration. Madame de Courcy a parlé beaucoup. Ça a été une longue annonce, évidemment et tristement. Aucune mention du rôle humanitaire du Québec n'a été faite. On a complètement occulté tout ce qui pourrait être humanitaire dans l'immigration au Québec. Ça n'existe pas. On s'en va en République dominicaine. Je vous parlais en introduction d'une terrible nouvelle qui s'abat sur les citoyens dominicains d'origine haïtienne. La plus haute instance juridique de la République dominicaine, donc la Cour constitutionnelle, a décrété une sentence très récemment qui va toucher directement 250 000 personnes. Donc, on vise à retirer la citoyenneté dominicaine à 250 000 personnes d'origine haïtienne. C'est gigantesque et ça va avoir des conséquences dramatiques pour tellement de monde, là. Moi, je dis que ça touche directement à 250 000 personnes, mais ça peut aussi toucher indirectement. Ben, leurs proches, leurs familles, leurs employeurs, leurs voisins, peu importe. Bref, vous voyez un petit peu le drame qui s'en vient. Donc, la Cour constitutionnelle de Saint-Domingue a déclaré « Les enfants nés dans le pays de parents étrangers en transit n'ont pas la nationalité dominicaine. » Parce que, bon, jusqu'à maintenant, les enfants nés sur le sol dominicain obtenaient automatiquement la citoyenneté dominicaine. Donc, on souhaite mettre un terme à ce droit-là et ça va s'appliquer, tenez-vous bien, de manière rétroactive. Toute personne née depuis 1929 en République dominicaine de parents ou de grands-parents immigrés deviendra de facto apatride. Donc, apatride, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences humaines que ça a directement sur une personne. Administrativement, ça va être tellement compliqué pour essayer de retrouver un semblant de statut, un semblant de dignité. Je vous cite un avocat haïtien. Ces Dominicains de descendance haïtienne n'ont aucun lien, aucune attache avec Haïti et ne parlent pour la plupart même pas créole. Même s'ils voulaient retourner vers le pays de leurs ancêtres, ils se retrouveraient devant des portes closes. Donc c'est ça, ces personnes-là, c'est un cas spécial parce qu'en leur retirant la citoyenneté dominicaine, on en fait des apatrides, comme je le disais, donc sans aucune citoyenneté, ni haïtienne, ni dominicaine, rien. C'est différent, par exemple, du cas des personnes sans papier qu'on retrouve par exemple dans les territoires canadiens ou américains. Donc, si on prend l'exemple, mettons, des Latinos, personnes mexicaines, salvadoriennes qui sont aux États-Unis actuellement, elles ont en général conservé la citoyenneté de leur pays d'origine, donc elles ne sont pas complètement absentes de statut. Ça va être extrêmement compliqué. Donc, ce que veut faire la République dominicaine, d'abord, pourquoi elle a fait ça? Il y a un contexte quand même extrêmement raciste en République dominicaine envers les personnes d'origine haïtienne. Donc, c'est pour répondre un peu à une certaine partie de la population qui est raciste, à certains intérêts de groupes de droite. Ce que ça va avoir pour effet, c'est vraiment de faire une purge, un ménage dans la communauté d'origine haïtienne de République dominicaine. Ce qu'on dit, ben, c'est. Écoutez, les personnes qui vont perdre leur citoyenneté, vous pourrez refaire une demande aux autorités dominicaines. Sauf que le système d'immigration dominicain est réputé tellement inefficace, corrompu et arbitraire que finalement on enlève à une grande partie de la population sa citoyenneté et à la pièce aux gens qu'on considérait comme désirables. Ben eux, on va peut-être leur accorder une citoyenneté, mais à combien on va le faire et sous quels critères? Donc, c'est un énorme drame humanitaire qui se prépare, à moins qu'elle ne soit cassée, cette décision. Ça s'en va d'ailleurs devant la Cour interaméricaine des droits de la personne. Dossier à suivre, on va probablement vous en reparler dans les semaines qui suivent. Je termine la chronique en vous suggérant la lecture d'un rapport publié par un institut de recherche torontois qui s'appelle Forum Research. Rapport sur le racisme au Canada. Son titre exact, si vous voulez le trouver très facilement en ligne, Racism Alive and Well in Canada. C'est basé sur un sondage pan-canadien auprès de 1600 personnes. Donc, pour ce que ça vaut les sondages, mais ça permet quand même de dégager certaines tendances. On pourrait apprendre des choses qui sont pas inintéressantes, comme par exemple, 3 personnes sur 10 considèrent les personnes musulmanes comme ayant trop d'influence. 2 personnes sur 10 considèrent la même chose des personnes juives. On peut avoir un aperçu de ce que pensent, par exemple, hors Québec, qu'est-ce qu'on pense des francophones. Il y a une petite section sur la charte du Parti québécois. Donc, c'est pas inintéressant, c'est même plutôt intéressant. C'est un peu déprimant parce que, évidemment, on se rend compte que le racisme est bel et bien présent au Canada et dans le monde. Ça fait un terme à la chronique des apatrides pour cette semaine. On vous retrouve probablement dans 2 semaines. Bonne soirée à tout le monde.